Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour un.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
C'était en 1998. L'équipe de France de foot s'apprêtait à faire broder sur son maillot une première étoile dorée. Au même moment, à la Seyne-sur-Mer, ville varoise où se côtoient les vestiges des chantiers navals et les sublimes rivages de la Méditerranée, j'observais, je les observais, des adolescents de 14 et 15 ans. Alors aucun voyeurisme de ma part, je vous rassure. Il s'agissait d'une étude sociologique et anthropologique. Le sujet de ces travaux était donc des ados joueurs de basket. Certains avaient choisi la compétition et défendaient les couleurs du club local. D'autres s'initiaient à cette pratique dans le cadre de l'UNSS avec leurs profs de sport du collège. Et puis, il y avait un petit groupe. Leur terrain de jeu en béton était situé au pied de leur barre d'immeuble. Ils étaient libres de jouer comme ils le souhaitaient. Ils auraient pu multiplier les fautes, tricher. Et pourtant, ils se respectaient. Ils avaient leurs règles et personne n'y dérogeait. Dans ces trois groupes, le sentiment d'appartenance à un collectif, une forme de cohésion sociale et un désir de jouer semblaient tous les animer. Alors oui, évoquer le sport, c'est aussi prononcer les mots dopage, fric et violence. Aucun angélisme de ma part, mais des questions. Est-ce que la façon de pratiquer un sport est le reflet de nos comportements en société? Pouvons-nous parler de méritocratie et de valeurs sociales quand nous abordons ce sujet? Et vous, quelle est la place du sport dans votre vie?
Eva Rock sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'été comme jamais sur France Inter pour évoquer la place du sport dans notre société. J'ai la chance d'être extrêmement bien entourée. Bonjour Georges Vigarello.
Bonjour.
Vous êtes historien, vos nombreux écrits portant sur les pratiques sportives, l'hygiène, le corps, entre autres, sont des références pour tous ceux qui travaillent sur ces sujets. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Face à vous, Florent Baudin. Bonjour Florent.
Bonjour Eva.
Vous êtes journaliste, réalisateur de documentaires. Votre dernière série documentaire intitulée Champion, à voir sur France.tv, est remarquable en tout point. C'est une œuvre sociologique. Depuis l'an dernier, vous suivez des jeunes athlètes français intégrés à l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Il y aurait presque une thèse à faire sur cet intitulé. Un documentaire qui retrace le quotidien de jeunes athlètes donc, que vous avez suivis, qui parle de sport mais qui dresse aussi un portrait de la jeunesse en 2021. Dans quelques minutes, Marie-Ève Pagé va nous rejoindre. Elle est joueuse de basket, 3 contre 3. Elle rentre à peine de Tokyo, sans médaille, mais avec la satisfaction d'avoir mis en valeur son sport encore peu connu. Georges Vigarello, de quand date le sport moderne tel que nous le connaissons, c'est-à-dire avec des fédérations, des clubs, des compétitions?
Alors c'est vrai que spontanément on a le sentiment que ça a toujours existé. En fait, pas du tout, pas du tout. Ça a commencé à prendre forme vers le milieu du 19e siècle en Angleterre et ça s'est accentué au niveau européen et en France. Les premiers clubs datent de l'extrême fin des années 70 du 19e, je dirais plutôt du début des années 80. Donc c'est en fait une pratique
récente,
quasi contemporaine.
Oui.
Et ça on l'oublie. Alors évidemment, on n'en finirait pas de se poser des questions sur le pourquoi, mais en deux mots, pour aller très vite, je pense que le jeu a toujours existé. Le jeu se trouve dans toutes les sociétés. Moi, je suis frappé quand je lis, par exemple, les voyageurs qui abordent l'Amérique au XVIe siècle. Bien, ils voient que les Indiens jouent. Et ils décrivent les jeux, c'est très intéressant. Mais en Europe, le jeu aussi a toujours existé. Les paris à la paume, etc. Mais il y avait d'immenses différences entre les pratiquants. Autrement dit, un homme ne joue pas avec un roturier.
Oui.
Une femme ne joue pas avec un homme âgé ne joue pas avec un homme jeune, etc. Et le sport a au moins trois caractéristiques fondamentales. La première, c'est qu'il est ouvert à l'ensemble des pratiquants. C'est la société démocratique. C'est la société qui est ouverte à tous. Chacun est égal à chacun. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le sport suppose ce que j'appellerais, moi, la fin des terroirs. C'est-à-dire la possibilité de traverser des espaces pour rencontrer des gens qui peuvent être loin les uns des autres. Et ça, c'est très important. Vous savez, dans l'Ancien Régime, les jeux étaient très différents d'une vallée à l'autre. Les règlements n'étaient pas les mêmes, les gens ne se rencontraient pas, etc. Donc il y a quelque chose de très fort,
à un
point tel, par exemple,
oui,
qu'au fur et à mesure qu'avancent les voies ferrées et les locomotives, pour dire les choses vite et mal, eh bien, au fur et à mesure, les clubs s'installent. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. Et la troisième caractéristique, c'est que un État relativement fort, relativement autonome, arrive à secréter des institutions et à soutenir des institutions. Et c'est le cas des fédérations. Et je continue sur le problème démocratique.
Oui.
Ne l'oublions jamais. Les fédérations, même si aujourd'hui elles n'ont plus exactement ce profil, sont a priori démocratiques. C'est-à-dire que les participants
votent pour
élisent
le
les dirigeants et les dirigeants élisent les responsables nationaux.
Oui,
ne l'oublions jamais.
Alors justement, cette morale démocratique et ces valeurs démocratiques qu'on associe régulièrement au sport, elles apparaissent immédiatement. On a l'impression que la méritocratie dont vous parliez, ça semble être un postulat un peu idéalisé quand on regarde après en détail dans la façon dont on pratique les sports.
Alors, c'est évidemment toujours idéalisé. On peut très bien se poser des questions sur la démocratie au sein des fédérations. On peut se poser des questions sur la présence, par exemple, des femmes dans les instances dirigeantes, etc., bien entendu. Simplement, ce dont je parlais ici, c'était le souhait.
C'est-à-dire,
comment ça s'installe, sur quel type, disons, d'idéologie, entre guillemets, les choses s'installent. Et ça, c'est fondamental. J'ajoute une chose, c'est d'autant plus fondamental que ça donne finalement le modèle des sociétés démocratiques. En un mot, puisque chacun est égal, puisque chacun peut venir avec, je dirais, sa propre autonomie. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est le mérite qui va l'emporter. C'est le travail. C'est le talent. Or, dans les sociétés démocratiques, en théorie, qu'est-ce qui l'emporte? Au niveau des concours, par exemple. Ben, c'est le mérite, c'est le travail et c'est le talent. Donc, en même temps, nous n'oublions jamais pourquoi le succès du sport. Parce qu'à mon sens, il présente une sorte de contre-société qui est le modèle idéal de nos propres sociétés.
C'est ça,
c'est absolument fondamental. Sinon, on comprend pas.
C'est la société dont nous rêvons,
bien sûr,
l'absolu.
Évidemment.
Mais qui, évidemment, a toutes ses dérives parce qu'elle est le reflet de la société.
Tout à fait.
On va évoquer.
Et j'ajoute un dernier mot.
Ça.
C'est d'autant plus impressionnant que ça peut se traduire en tableau. Ça peut se traduire en performance, en chiffres.
Oui.
Ça peut se visualiser sur les tableaux. C'est encore plus fascinant, vous voyez.
Florent Baudin, vous avez fait du sport. Aujourd'hui, vous en êtes un observateur aguerri. Est-ce que, d'après vous, le sport aujourd'hui repose sur ces valeurs sociales que nous venons d'évoquer d'un point de vue historique?
Le côté rassembleur du sport est indéniable, je pense. Et puis, il y a aussi, et je pense que M. Vigarello en a beaucoup parlé, a beaucoup écrit dessus, l'aspect mythologique que peut représenter le sport pour la population. C'est un peu les gladiateurs des temps modernes sportifs. On a coutume de le dire. Il y a une part de rêve aussi. Moi, c'est ça qui me plaît dans le sport.
C'est les récits que ça peut provoquer.
Exactement. Les grandes histoires, les grands destins. Toute cette passion que ça nous transmet.
Alors, on est d'accord quand même pour dire que ces valeurs, elles sont parfois, même souvent balayées dans le sport de compétition. Je parlais aujourd'hui par les notions d'argent, de marketing, avec toutes les dérives que ça peut comporter, et notamment le dopage. Vous l'avez ressenti, ça, quand vous allez tourner à l'INSEP?
Alors, à l'INSEP, je pense que c'est assez particulier parce que ce sont des sportifs qui sont pas forcément mis en lumière comme peuvent l'être d'autres sportifs beaucoup plus connus, comme les footballeurs, par exemple. Et du coup, j'ai vraiment ressenti que c'était des jeunes qui faisaient ça par pure passion de leur discipline, sans chercher autre chose que la performance. Et ce goût-là du résultat, de la performance, c'est vraiment ça qui les anime. Du coup, j'ai pas trouvé ces dérives-là. Ils ont envie de performer de la belle manière. Ils m'ont, sur le dopage, par exemple, ils m'ont tous dit que ils pourraient pas se regarder dans la glace. Ça servirait à rien pour eux de tomber dans ce travers-là.
Ça renvoie à cet idéal démocratique, j'allais dire, mais méritocratique, pardon, aussi. Vous filmez beaucoup les entraîneurs aussi, qui semblent être très attachés à ces notions de partage et de respect. Et je voudrais qu'on écoute le patron de l'INSEP, Gany Yalouz, qui parle aussi d'exemplarité.
Le sport olympique, c'est un sport amateur à la base. Donc on doit construire sa vie d'homme, son parcours de vie.
Nous, on fait les suites. Nous, on fait les suites de nombres.
Ah ouais. Oh là là.
On leur demande d'être exemplaires au niveau des études, de préparer leur avenir, parce que c'est éphémère. On ne va pas tous aller au NBA, on ne va pas tous être des pros dans le foot.
On a déjà un truc à faire pour demain.
Arrête.
Je te jure. Je te jure.
Alors, on va vérifier l'emploi du temps qu'on vous a distribué.
La gymnastique, après 2024, ce sera fini. Parce que j'aurai déjà 20 ans, il faudra bien que je pense à la suite. Les jeunes d'aujourd'hui, ils font la fête. On n'a pas les mêmes envies, les mêmes ambitions dans la vie. Nous, on cherche plutôt des médailles olympiques.
elles mettent leur vie au profit de cet espoir de médaille olympique, ces jeunes gymnastes que vous avez suivis, interviewés. Vous avez décidé d'appeler votre documentaire Florent Baudin « Champion » après avoir tourné de longs mois aux côtés de ces jeunes. Est-ce que vous arrivez à définir ce qu'est un champion ?
C'est difficile, je crois que c'est eux qui le définissent le mieux. Finalement, on les entend à peu près tous en parler dans l'introduction, où ils disent notamment le boxeur Victor Yoka qui dit que le champion, c'est celui qui gagne, et quand il tombe, c'est celui qui se relève toujours. Et je pense que c'est ça, c'est cette notion, Monsieur Vigarello en parlait, de travail, de sacrifice qui fait les champions.
Georges Vigarello, comment vous définiriez le champion aujourd'hui ?
De toute façon, il est défini par le système lui-même. C'est celui qui réussit le mieux et qui a le plus de visibilité. Mais ce qu'il faut ajouter et qui me paraît important, c'est que le sport est fondé sur le sentiment du perfectible. Vous voyez,
oui.
Vous pouvez toujours aller au-delà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce perfectible, il y a quelque chose qui est d'ordre de l'infini. C'est-à-dire que vous ne savez pas quelle est la limite. Et moi, je me souviens toujours d'une phrase qui était d'ailleurs issue d'un intellectuel qui disait « On ne sait pas jusqu'où l'homme peut sauter ». Et je pense que c'est un facteur d'excitation absolument exceptionnel de ce point de vue.
Alors, on a demandé également aux auditeurs quelle était la place du sport dans leur vie. On a par exemple Denis qui nous dit « Mon entraîneur de volley, quand j'étais jeune, nous disait que le sport, c'est l'école de la vie. » Et il le croit assez lui aussi. Audrey nous dit « La place du sport dans ma vie, eh bien c'est simple, il m'a sauvée. Le handball a été pendant 20 ans un synonyme de résilience. » Georges Vigarello, je me souviens, en travaillant sur cette histoire des pratiques sportives à la Seyne-sur-Mer, c'était à la fois les chantiers navals qui avaient permis aux ouvriers d'accéder au sport, parce que c'était eux qui avaient organisé ce qu'allait être ensuite les clubs. Mais les curés aussi avaient eu leur rôle, c'est-à-dire qu'ils encadraient les activités des jeunes et beaucoup ont découvert le basket comme cela. Est-ce qu'on peut dire que l'usine et l'église ont été les piliers du développement du sport en France ? Ou c'est un peu un raccourci ?
C'est sans doute un raccourci. Je pense que c'est plutôt les mœurs, vous voyez.
Oui.
Les mœurs poussent à ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire la rencontre, une rencontre démocratique où joue le mérite. Alors les curés ont utilisé ça parce qu'ils avaient à leur disposition des élèves et c'était un facteur d'excitation bien entendu, l'usine par certains côtés aussi, mais je pense que les mœurs sont absolument centrales de ce point de vue, et en particulier les mœurs démocratiques. Et c'est pour ça que ça joue à la fois sur la façon de s'impliquer et sur la manière de créer des modèles, voyez. Sinon, c'est très difficile de comprendre.
Oui. Florent Baudin, comment vous avez choisi vos jeunes athlètes que vous avez suivis pendant plus d'un an dans le cadre de l'INSEP ? Parce que vous avez deux boxeurs, deux gymnastes, deux sprinteurs, une fille et un garçon, un basketteur, et une judoka. Pourquoi vous avez choisi ces sports-là en priorité ?
D'abord, on a commencé par les sports. Et il faut savoir qu'on a travaillé en collaboration avec l'INSEP, donc ils ont évidemment pu nous guider dans nos choix, mais on voulait voilà des disciplines qui nous parlaient pour différentes raisons. On aimait bien l'aspect star et argent que crée le basket, par exemple. On se disait que l'athlétisme c'était une évidence parce que c'était le sport olympique.
Bien sûr.
Évidemment, par excellence. Et puis la gym, on savait qu'on allait trouver des notions de travail, de sacrifice, de dureté très intéressantes. Et voilà, le judo évidemment parce que l'INSEP c'est le temple du judo en France. Tous les meilleurs judokas sont à l'INSEP en France. Donc voilà, on a travaillé comme ça. Et puis après, on a avancé avec les directeurs de pôle, les entraîneurs. On a fait des rencontres. On a fait un casting,
oui.
Clairement. Et puis certains se sont ajoutés à la dernière minute. Au départ, on devait suivre que le boxeur Moreno Fendero. Et puis quand j'ai discuté avec le directeur de pôle, John Dovey, il m'a dit, voilà, cette année, son concurrent, ce sera le petit frère de Tony Yoka. J'ai dit, ça, c'est une histoire extraordinaire.
C'est une autre histoire.
Donc on a
voilà,
ajouté ce
ça.
Personnage.
Ouais, ouais.
Pareil pour Fanny, qui est la sprinteuse qui s'est blessée gravement et qu'on suit dans sa rééducation. Elle est arrivée à la toute fin. Car on était focus sur Sacha Zoya, mais quand on a appris cette histoire avec Fanny, on se disait ça pourra faire aussi une histoire, un fil rouge hyper intéressant. Donc voilà comment s'est constitué un petit peu le casting.
C'était dommage de se priver de Fanny Pelletier, cette fameuse sprinteuse qui est absolument géniale et qui est extrêmement émouvante. Dans un instant, nous allons revenir notamment sur la notion de règles qui encadre ces disciplines sportives et puis la notion de corps que vous connaissez si bien, Georges Vigarello. Mais vous le savez, cette émission est la vôtre. Quelle place a le sport dans votre vie ? Est-ce que l'école a par exemple été importante dans l'apprentissage d'une pratique ? Et puis pensez-vous que le sport concourt à une forme de cohésion sociale ? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous envoyer un mail ou une note vocale. Il suffit de cliquer sur le bouton « Réagir » sur la page de l'émission « L'été comme jamais » via l'application ou le site.
visage couleur béton. Je porte le blouson que t'aimais bien sûrement. Je porte mes prisons, j'ai gardé espoir. Qu'est plus tes fantômes au parloir. Tout ce que j'entends, c'est ton sourire abstrait. T'as laissé derrière toi mardi dernier. Cette vie, c'est pâle, c'est fade. Sans toi, je vaux pas mieux qu'un homme. Je vaux pas mieux que ça. Je veux pas mieux que toi. Pas juste un rodéo. Avec ce qu'il reste de nous. Tous mes idées. Moi je les verrai pas. J'ai l'impression de sortir d'un coma. Quand tes yeux me flinguent d'un verre au pas. Tout ce que j'attends c'est ton fou rire abstrait. J't'ai perdu, j'savais plus combien j'étais. Cette vie c'est pâle, c'est fade. Sans toi j'vaux pas mieux qu'un homme. J'vaux pas mieux que ça.
Dans l'été comme jamais sur France Inter avec sa chanson Rodéo.
Je tire, je pousse, je tire, je pousse.
On va pas au jeu pour participer, on va au jeu pour gagner.
Si t'aimes pas le bout du sang dans la bouche, là, si tu vas pas au charbon, tu ramèneras que dalle.
Tu vas arrêter ce basket de merde.
Allez, Sacha, allez.
Je vais te voir haute là. Je veux voir là.
Oui, ça fait mal.
Regarde-le, Moreno, il est mort, il va pas tenir. Regarde-le dans les yeux.
Vous venez d'entendre un nouvel extrait du documentaire Champion de Florent Baudin qui était avec nous ce matin et qui est en face de l'historien Georges Vigarello, qui est un extrait très intéressant à mon sens car il parle de corps, de nos corps. Georges Vigarello, pendant longtemps, il a été question de force, de puissance, d'être à fond quand on parlait de pratique sportive. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que il faut se détendre, lâcher prise. Vous l'avez constaté dans vos recherches.
Bien sûr. Vous avez raison de rappeler le passé parce que, en fait, il y avait deux grandes qualités qui dominaient. L'adresse et la force. Et pour tout vous dire, plus particulièrement la force. Or, ce qui s'est produit depuis un certain nombre d'années, et on le voit dans la montée de certains sports, cela dit, parenthèse, c'est intéressant de faire l'histoire de certains sports par rapport
à
d'autres.
Bien sûr.
Je ferme ma parenthèse. Ce que l'on voit depuis plusieurs années, c'est l'avantage donné à ce que je dirais les qualités acrobatiques, les qualités finalement d'élan, les qualités de finesse. Et ça renvoie d'ailleurs aux corps d'aujourd'hui. Quels sont les corps d'aujourd'hui? Ce sont des corps mobiles, ce sont des corps qui sont théoriquement adaptables, ce sont des corps souples, ce sont des corps maîtrisés, vous voyez. Et donc là, on voit encore une fois la manière dont le sport s'inscrit dans les mœurs d'aujourd'hui et comment les uns et les autres se répondent, si vous voulez.
Alors, pour faire écho à ce que vous venez de dire, Georges Vigarello, c'est assez étonnant de voir ce que vous disiez, l'évolution des pratiques, parce que si on prend les sports de combat, on part de la boxe, qui était vraiment, dans les années 30 et 40, un sport extrêmement populaire, où on vit dans la puissance. Les sports de combat... Après, ça a été plutôt le judo, où on a déjà, alors je ne sais pas si on peut dire ça, mais déjà c'est un peu plus doux, même si je ne voudrais pas être en face de Teddy Riner. Et puis, cette année, aux Jeux Olympiques, on a vu le karaté, voire le kata, qui sont des gestes extrêmement doux. Les corps qui changent aussi, les lanceurs et les lanceuses de poids ou de disques n'ont plus du tout la même morphologie. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait même étudier les pratiques sportives en scrutant uniquement les changements morphologiques?
De morphologie peut-être pas, mais de technique, oui. Moi, j'avais fait l'histoire des techniques qui m'avait passionné. Alors pourquoi, c'est très juste ce que vous dites, si on prend l'exemple des sports de combat, vous venez de citer quelques sports, qu'est-ce qui se passe? On voit très bien que c'est l'ascendance progressive de ce que j'appellerais moi les corps aériens. Ce sont des corps qui non seulement ont de la souplesse, mais en plus peuvent jouer sur quelque chose qui est de l'ordre de l'acrobatie, vous voyez. Et c'est plus simplement la force brute, bien oui. Au contraire. Et c'est parfois aussi, le judo a été le premier à le faire, utiliser la force de l'autre. Donc c'est très important et intéressant de voir comment les techniques elles-mêmes évoluent et en évoluant, comment elles se fondent finalement dans nos mœurs. J'ajouterais que du coup, ce qui est intéressant aussi historiquement, c'est de voir comment certains sports s'effacent par et rapport oui. à d'autres qui montent.
Oui,
et
oui.
en particulier, ce qui monte considérablement, et c'est en rapport avec ce que nous venons de dire, ce sont les sports de glisse. Qu'est-ce que c'est qu'un sport de glisse? C'est un sport qui vous convie à écouter vos propres sensations, pour que vos sensations puissent vous permettre de réagir aux sollicitations que le milieu vous pose. Ça, c'est fondamental. C'est un changement radical et qui rentre précisément dans nos mœurs.
Florent Baudin, vous le montrez très bien dans une séquence avec le coureur Sacha Zoya. Il y a une forme d'esthétisation aujourd'hui du geste sportif. On voit ce jeune sprinter suivre un cours de danse. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer le contexte de cette séquence et à quoi ça sert de suivre un cours de danse quand on est sprinter?
Alors, il faut déjà savoir que Sacha Zoya, c'est un touche-à-tout qui est passionné d'art. Il a fait de la danse plus jeune, même s'il est encore très jeune. Hein, il a juste 19 ans. Et en fait, il suit des cours avec une chorégraphe à l'INSEP qui travaille à l'INSEP pour gagner dans le placement de son corps, notamment par rapport à l'une de ses pratiques qui est le 110 mètres haies. Donc voilà, elle va lui corriger le placement de son bassin, de son dos, de quel muscle utiliser à quel moment. Et c'est vrai que parfois ça peut ressembler à un ballet quand on les voit tous les deux évoluer, parce que a priori, et c'est lui qui me racontait ça, c'est très dur pour lui, car ça demande une précision et une concentration extrême pour savoir quel muscle, quel pan de son physique utiliser à quel moment, et surtout qu'on parle de gestes qui doivent être faits en une fraction de seconde.
C'est étonnant parce qu'on le voit épuisé à la fin de ce cours de danse, alors que de toute évidence, c'était pas le cours le plus physique par rapport à tous les entraînements qu'il pouvait avoir sur le stade. Georges Hugarello.
Mais je crois que c'est très important ce qui vient d'être dit. Parce que là encore, si vous prenez les conseils qui étaient donnés aux sprinteurs dans les années 30, oui. Voire encore dans les années 50, c'était bloque ton souffle et essaie de te crisper au maximum pour donner l'intensité la plus vive qui puisse être. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe au moins deux choses, sinon trois. La première, c'est faire intervenir de la façon la plus subtile qui soit des zones qui étaient ignorées.
Oui.
C'est-à-dire détendre, par exemple, le visage alors que vous essayez de courir le plus vite possible, détendre certains muscles qui n'interviennent pas. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intervention, de la surveillance de secteurs qui était ignoré. Deuxième chose fondamentale, écoutez-vous. C'est-à-dire finalement, lorsque vous cherchez le meilleur placement possible, soyez conscient de la façon dont votre corps exactement se situe. Et puis, dernier point, qui me paraît tout aussi important, si vous voulez, c'est essayer de coordonner tout ça.
Et oui.
Essayer de mettre en vivacité, en jeu, tout ça. Et finalement, une fois encore, aujourd'hui et hier, changement radical.
Il y a quelques jours, on a entendu un début de polémique. Alors, je voudrais qu'on sorte de la polémique, mais pour s'intéresser à une déclaration de Jean-Michel Blanquer, qui a suscité de vives réactions à la fois du milieu sportif et qui a réveillé quelques mauvais souvenirs chez certains et certaines. Parce qu'on parle beaucoup de sport de compétition depuis tout à l'heure, mais je voulais qu'on revienne aussi au sport amateur et au sport pratiqué à l'école. Le ministre avait réagi aux victoires des équipes de volley et de hand aux Jeux Olympiques. Il se fend d'un tweet où il affirme que ces médailles illustrent la qualité de l'enseignement de ces sports à l'école. Et il ajoute, saluons le travail des enseignants de PS et la bonne collaboration avec les fédérations. Alors ça a énervé certains sportifs, à commencer par le basketteur Evan Fournier qui lui a répondu, notre culture sportive à l'école est désastreuse. Si mes coéquipiers, et moi-même sommes arrivés à l'élite de notre sport, c'est grâce aux associations sportives, aux clubs, aux bénévoles, mais en aucun cas grâce à l'école. Florent Baudin, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez filmé pendant de longs mois dans un établissement qui mêle à la fois l'école et la compétition, en l'occurrence l'INSEP?
Je pense que Evan Fournier a totalement raison. D'ailleurs, on le voit, hein, ces sportifs-là sont obligés d'avoir un cursus scolaire aménagé pour pouvoir lier sport de haute performance et école. Mais si on veut parler juste du sport à l'école, je pense que le principal problème, c'est que c'est une matière qui n'est pas considérée encore comme une matière noble au même titre que des matières comme les mathématiques ou la biologie. Je pense que ça, Monsieur Vigarello pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais c'est une évidence encore aujourd'hui en France. Le cours de sport n'est pas valorisé à l'école.
Vous êtes d'accord, Jean-Jules Garello ?
Oui, mais on parle de demandes différentes.
Et oui, c'est ça.
Alors, moi, je connais bien les professeurs d'éducation physique pour l'avoir été moi-même, et je ne jetterai jamais, mais vraiment jamais, j'insiste, jamais la pierre à de tels enseignants. Ils sont correctement formés, ils sont passionnés, ils ont de la sensibilité, mais ce qu'ils font n'est pas du tout la même chose que ce qu'un entraîneur peut faire au niveau
de 27. On leur demande pas de faire des champions.
Ce sont deux mondes différents. Ils sont pas là pour faire des champions. Ils sont là pour animer des pratiques physiques, aider les élèves à prendre conscience de leur propre corps, aider les élèves à prendre conscience de l'adversité, à jouer sur des problèmes qui sont des problèmes de sociabilité, et ils sont fondamentaux.
Mais alors peut-être.
Mais en revanche, les problèmes de l'entraînement, les problèmes de la formation des meilleurs sportifs français, c'est pas à l'école que ça se fait, bien entendu. Alors, ce sont deux mondes différents. Mais personnellement, je ne jetterai ni à l'un ni à l'autre la pierre.
Mais alors peut-être qu'il y a quand même une réforme à faire, notamment au niveau de l'enseignement universitaire, parce que Evan Fournier a fait également un courrier au ministre qui a été diffusé aujourd'hui par nos confrères du Huffington Post, où il explique qu'aux États-Unis, en université, évidemment, sont pris en compte à la fois l'école, le système éducatif et ce système éducatif sportif, et que tout va de pair, et que peut-être c'est aussi ça sur lequel la France doit travailler, parce que effectivement, quand vous sortez du collège pour faire des études de sport et des études de hautes études, c'est quand même extrêmement compliqué. Mais bon, ce sera c'est au ministre de réagir.
C'est très possible qu'il y ait à améliorer la manière dont les universités ont à prendre en compte le versant sportif de leurs propres étudiants. Ça, c'est tout à fait possible, bien sûr.
Eric vient de nous appeler. Eric, qui nous appelle de Nîmes. Bonjour.
Bonjour.
Vous souhaitiez témoigner ce matin dans l'été comme jamais.
Oui.
Qu'est-ce que vous vouliez nous dire?
Si vous voulez qu'une fois de plus, on parle beaucoup du sport professionnel et peu du sport amateur, qui est la source vive des
Bien
sportifs
sûr.
Professionnels. C'est-à-dire qu'ils ont tous commencé dans un club amateur, si vous voulez. Et je trouve qu'on est, vous n'en parlez pas beaucoup.
Mais vous avez raison et merci pour votre intervention, parce qu'il faut rappeler le rôle des éducateurs, notamment dans les clubs, et qui participent à cette cohésion sociale. C'est ça aussi le sport enfance, Georges Vigarello, c'est toute cette structure
fondamentale
au-delà du sport
bien
de compétition.
Et ce qui est important aussi, c'est de citer le bénévolat. Vous voyez, là, il y a réellement une forme d'animation, d'implication, d'engagement que je trouve très intéressant personnellement.
On a reçu d'autres messages. François, par exemple, qui nous dit, alors il revient sur l'histoire, mais il nous dit le sport a eu une place importante dans l'Italie fasciste ou l'Allemagne nazie. Alors pourquoi vouloir justifier idéologiquement le simple plaisir de faire du sport? Pourquoi ne pas dire qu'il y a actuellement une privatisation de l'organisation sportive? Oui, ça fait partie des dérives dont nous parlions en début d'émission. Eric, il nous dit sport égalitaire avec un point d'interrogation. C'est en cours de PS que j'ai vécu la discrimination. Ceux qui étaient vus plus faibles, qui avaient des lunettes par exemple, n'étaient choisis qu'en dernier pour constituer les équipes. Malheureusement, Florent Baudin, c'est pas ce que vous avez vécu à l'INSEP, parce que c'était déjà des enfants qui sont choisis et qui sont passés souvent par les clubs. Mais c'est ce qu'on reproche un peu parfois au système scolaire, c'est que le PS étant un peu le parent pauvre, c'est aussi le lieu de discrimination et non pas de la méritocratie dont on parlait en début d'émission.
Oui, c'est ce qu'on disait au début aussi. Le sport, c'est un reflet de la société.
Bien sûr. Et
forcément, ça peut entraîner ce genre de dérive. Mais en tout cas, je pense que le sport gagnerait à être davantage valorisé à l'école. Ça, ce serait un point intéressant qu'on puisse arrêter de considérer simplement le sport comme un hobby, parce que je pense que voilà, il y a des choses aussi à remettre en cause dans l'enseignement du sport en France.
Alors Thierry nous dit aussi, le sport m'a été imposé quand j'étais petit, surtout dans la discipline. Il faisait du squash à l'époque et je ne regrette pas certaines valeurs, mais je ne me suis pas découvert dans le sport que j'aurais aimé faire petit, c'était l'escalade. Alors évidemment, mais vous pouvez encore en faire aujourd'hui. C'est ça l'avantage du sport, on peut en faire à tous les âges. Vous êtes d'accord avec moi, Georges Vigarello?
À l'évidence.
À l'évidence. évidence. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Dites-nous si vous croyez que le sport est un moyen d'intégration sociale et puis quelle est la place du sport dans votre vie. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey. Survive par Gloria Gaynor sur France Inter, chanson devenue un hymne sportif en 1998, lors d'une fameuse Coupe du Monde de football.
L'été comme jamais. Eva Rock sur France Inter.
Un été comme jamais musclé. Aujourd'hui, nous évoquons la place du sport dans notre société, dans nos vies au quotidien. On a reçu beaucoup de messages. Martine qui nous dit « Je voulais faire valoir le sentiment d'une minorité à laquelle j'appartiens. Je n'aime pas pratiquer le sport et je n'ai pas pu le dire. En tout cas, je n'ai pas pu le dire avant 30 ans, nous dit-elle, tant l'injonction était forte par la société, les amis, la famille. Je m'épanouis aujourd'hui sereinement sans sport, même si j'apprécie certains événements sportifs. Mais j'en ai marre de ne pas pouvoir dire « Je n'aime pas le sport pour moi-même. » Mais vous avez raison, il faut le dire aussi. Alors d'ailleurs, petite précision concernant les activités physiques les plus pratiquées en France, c'est la randonnée qui arrive en première position avec la marche sportive, ensuite la natation, le cyclisme, la course à pied, la musculation et le fitness. Premier sport collectif, c'est le foot, mais en 9e position, c'était un sondage Odoxa. Et en ligne avec nous, une championne de sport collectif. Bonjour Marie-Ève Pagé.
Bonjour.
Vous êtes rentrée de Tokyo il y a quelques jours, vous faites partie de l'équipe de France de basket. Alors on dit 3 contre 3 ou comment dit-on pour être le plus juste 3-3. Possible 3-3, exactement, nouvelle discipline olympique. Alors vous me corrigez si je dis une bêtise Marie-Ève Pagé, c'est du basket mais sur un demi-terrain. L'objectif c'est de marquer 21 points ou un maximum de points en 10 minutes. Est-ce que j'ai bon jusque-là?
Parfait.
Et là où je trouve que cette discipline est extrêmement intéressante, c'est qu'il n'y a pas de faute individuelle, c'est ça?
C'est ça, c'est des fautes collectives avec des réparations au bout d'un certain nombre de fautes. Du coup, en fait, c'est pas comme au basket 5-5 où on risque d'être expulsé quand on fait 5 fautes. Là, on peut faire autant de fautes qu'on veut, entre guillemets, sans pouvoir quitter le terrain.
Mais alors, est-ce que ça change les relations avec les autres joueurs en comparaison avec le basket à 5, par exemple ?
Je pense qu'il y a toujours cette notion de groupe, évidemment. Mais je pense que le fait de s'entendre plus avec ses coéquipières est encore d'autant plus important au 3-3, vu qu'on n'est que 4.
Oui.
Et que forcément, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec une coéquipière, ça va peut-être plus se ressentir parce qu'on est amené à être beaucoup plus souvent ensemble sur le terrain.
Et vous n'avez pas de coach non plus sur le terrain. Ils sont dans les tribunes, les coachs.
Exactement, nos coachs sont à l'image un peu du tennis, nos coachs sont dans les tribunes et on n'a pas le droit de communiquer avec eux. Si l'arbitre nous prend à essayer de communiquer avec eux, on peut se prendre une faute technique. Donc en fait, le travail entre guillemets de stratégie, technique, etc., il est fait avant.
D'accord, il faut bien s'entendre donc entre les quatre coéquipières en l'occurrence, on est bien d'accord.
C'est mieux.
Oui,
et
c'est
aussi,
mieux.
Ce qui est super important, c'est la communication en fait au final.
Alors, les matchs se déroulent en musique. Il y a toute une ambiance autour du terrain parce que cette forme de basket est initialement un sport de rue. Est-ce que vous avez commencé à jouer sur un terrain en ville ou pas du tout ?
Bah, quand j'étais petite, c'est vrai que l'été, voilà, quand j'étais pas en saison, j'allais des fois sur les terrains. Puis en fait, on peut jouer contre n'importe qui, en fait. Il peut y avoir des garçons, des plus âgés. Voilà, on arrive, est-ce que je peux jouer ? Ok, on fait une équipe et puis on y va, quoi. On joue.
C'est ce côté un peu inclusif aussi qui vous plaisait dans cette pratique, hein. C'est-à-dire que les garçons jouent avec les filles, vous venez vous voir mutuellement lors des rencontres, vous pouvez jouer ensemble, c'est ça ?
Exactement, c'est ça qui me plaisait. D'ailleurs, même moi, j'ai pas eu la chance de connaître ça, mais en 2012, il y avait le 3-3 mixte.
D'accord.
Et la France a été d'ailleurs la seule championne du monde en 2012, donc mixte. Donc il y avait des filles et des garçons dans l'équipe, donc deux filles et deux garçons. Et je pense que la FIBA 3-3 a décidé d'arrêter cette pratique parce que c'est dommage, mais je pense que voilà, pour être un sport olympique, il fallait certains critères et peut-être que cela ne faisait pas partie ou alors c'était trop compliqué à gérer. Je ne sais pas exactement les raisons pour lesquelles ils ont arrêté ce format, mais moi je trouvais ça génial. Et c'est vrai que du coup, le 3-3, de manière générale, c'est très inclusif. Et on peut le voir, par exemple, l'été, quand il y a la Super League, donc c'est la ligue, le championnat français, entre guillemets, 3-3. On peut très bien être amené, par exemple, moi, je suis joueuse professionnelle en LFB, et je peux très bien être amenée à jouer contre des filles qui jouent en 4e division, voire 5e division française.
Oui.
Et c'est le côté inclusif qui est, je trouve, vraiment enrichissant parce qu'on côtoie d'autres personnes qu'on n'a pas forcément tout le temps l'habitude de côtoyer.
Georges Vigarello, quel regard l'historien porte sur ces pratiques sportives?
Écoutez,
urbaine.
Premier regard, considérable enrichissement des pratiques elles-mêmes.
C'est-à-dire
qu'on a de plus en plus des pratiques qui se créent quand même. Le sport n'est pas un monde figé, ça c'est très important. Mais c'est pas un monde figé, vous voyez, il y a une histoire des pratiques elles-mêmes, il faut insister là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'un sport comme celui-ci implique davantage la feinte, la fluidité, la souplesse, la prise en compte de l'autre. Ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un enrichissement considérable de la façon dont les corps s'impliquent et la façon dont les corps se maîtrisent et la façon dont les corps s'allègent. J'ai pas d'autres mots et ça me paraît très important.
Florent Baudin, est-ce que vous avez l'impression que l'INSEP pourrait s'ouvrir à ces nouvelles disciplines qui sont issues de la rue?
C'est déjà le cas. Les filles du basket 3-3 s'entraînent à l'INSEP en stage. Je pense que Marie-Ève ne me contredira pas. Moi, ce que je trouve excellent dans ce sport, notamment, c'est qu'on revient à l'essence même du basketball, c'est-à-dire l'adresse, la vitesse, le collectif, la créativité.
Absolument.
Et c'est ça aussi, je pense, qui fait évoluer les sports, c'est de revenir au plaisir du jeu, déjà.
Marie-Ève, j'aimerais comprendre une chose. Les sports urbains, c'est quand même une forme de liberté de pratique. Pourquoi vous voulez rentrer dans un système de compétition normé qui impose des règles ? Il n'y a pas une sorte de contradiction entre tout ça ?
Oui, on peut dire qu'il y a une certaine contradiction, mais je pense que la visibilité en fait, que donnent les Jeux Olympiques,
c'est ça.
Et le gain qu'on va gagner derrière... je pense qu'on peut-être s'asseoir sur certaines libertés parce que justement ça va en fait développer la discipline à fond et je pense que du coup C'est très intéressant en fait, et même si on perd un petit peu de degré de liberté, que c'est un peu plus, oui. Voilà, les anciens, les pionniers, ils vont nous dire oui, le 3-3 a changé, parce que voilà, il y a eu des nouvelles têtes, il y a eu forcément, quand il y a de la compétition, il y a forcément, bah voilà, des personnes qui arrivent avec certaines ambitions, quand l'argent aussi se mêle dans tout ça, forcément ça devient un peu, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, plus sérieux, oui. Et forcément on perd un peu de légèreté. Mais c'est normal, mais je pense que les retombées sont beaucoup plus grandes que ce qu'on perd.
Alors d'ailleurs, j'avais une question sur l'argent, Marie-Ève Pagé, parce qu'on en parle souvent quand on parle de sport de compétition. Vous êtes championne de France avec votre club des Landes, je parle de basket à 5, vous êtes membre de l'équipe de France, donc de basket à 3. Est-ce que vous gagnez votre vie en pratiquant ce basket ?
Alors pas du tout, moi je gagne ma vie en jouant au 5-5,
oui.
Donc avec mon club de basket Land, et avec l'équipe de France 3-3, on n'est pas rémunéré, on a certaines primes quand on fait des résultats, mais c'est tout. Il y a encore beaucoup de choses à construire, et aussi par rapport à l'équipe de France, mais aussi dans le sport, il faut professionnaliser le 3-3 pour l'instant.
Oui, oui.
Il faut créer un circuit économique en fait tout autour de ça. Donc c'est donc pour l'instant non, je ne gagne pas ma vie en faisant du 3-3.
Je voudrais qu'on prenne Bénédicte qui vient de nous appeler. Bonjour Bénédicte.
Oui, bonjour.
Merci de nous avoir appelé. Vous êtes fille de parents prof de sport, c'est ça, si j'ai bien compris?
Tout à fait, oui. Les deux, enfin, qui ne sont plus aujourd'hui, ils sont retraités, mais ils étaient profs de sport tous les deux en lycée.
Et alors, comment vous avez vécu à leur côté? Est-ce que vous avez eu l'impression de faire partie de la grande famille du sport, ou vous aimiez pas du tout le sport, en l'occurrence?
Alors, plus que jamais, ma garderie, moi, le soir, c'était justement, c'était le gymnase.
Oui.
Avec mon petit frère, avec les lycéens qui nous gardait de temps en temps, et puis pendant qu'ils étaient en cours, donc justement, eh bien, on était soit sur le tatami, soit sur les cordes, et ce que je disais tout à l'heure en discutant donc avec votre opératrice, c'est que déjà pour nous c'était des souvenirs d'enfer, comme garderie, on peut pas rêver mieux quand on est môme, et puis tu en étais avec des grands, quoi, donc qui s'acceptaient. Je pense qu'avec le recul aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'appropriation de son corps, de son propre corps, et que parfois, oui, c'était difficile pour des jeunes qui avaient des lunettes, qui étaient peut-être un peu plus forts, etc. Et moi, ce que j'ai comme souvenir, c'est un groupe, c'est des classes qui avançaient ensemble, et c'était juste magnifique. Donc oui, ça nous a donné envie. Avec mon frère, on est allé vers l'athlétisme d'abord, avec la discipline, etc. On a eu quelques petits résultats.
Oui.
Et ensuite, vers le hand, parce que c'était un sport collectif, et parce que je pense qu'on se retrouvait dans ce système, au-delà du système familial,
oui.
C'est le système sportif qui nous anime, en fait, qu'on retrouve aujourd'hui dans notre vie, quoi.
Ben merci beaucoup Bénédicte pour ce témoignage très positif. Jean-Vic Garello, je vous voyais hocher la tête.
Oui, parce oui. que moi je trouve qu'il faudrait dire deux choses qui sont d'ailleurs dans le prolongement de ce que nous venons d'entendre. La première, c'est que de plus en plus, le sport, est au cœur d'une recherche de plaisir.
Oui.
La tradition, c'est quand même l'ascétisme, le début du sport. C'est la morale, c'est s'imposer des choses. Or, aujourd'hui, c'est beaucoup plus, on est dans une société plus hédoniste. C'est essayer de jouir de la pratique elle-même, voyez. Et la deuxième remarque qu'il faut faire, c'est qu'une fois qu'on jouit de la pratique elle-même, y a un appel incontournable, c'est qu'il faut affronter.
Oui.
Il faut se rivaliser avec d'autres. Et donc, créer des règlements, créer des rencontres. Autrement dit, il y a ce mot que je trouve horrible, qui est sportivisation, vous voyez. Mais qui est quand même incontournable. C'est-à-dire qu'il faut bien que le fait de vivre ensemble entraîne quelque chose qui soit de l'ordre de la confrontation. Et la confrontation, qu'est-ce qu'elle implique ? Du règlement.
Fine ass up in the tower, the way you move.
Bruno Mars et Anderson Paak réunis dans le projet Silk Sonic pour un titre de circonstance, Skate sur France Inter. J'ai une dernière question pour nos trois invités, un petit exercice de prospective. Quel sera selon vous le sport le plus populaire en France en 2050, Florent Baudin?
Alors, bonne question. Je sais pas si ça sera le sport le plus pratiqué, mais en tout cas, je pense que le football sera toujours le sport le plus suivi.
C'est vrai, vous y pensez?
Je pense que ça a une dimension tellement internationale, tellement universelle. C'est porté et poussé par des grands groupes, des grosses marques. Notamment le jeu vidéo qui a beaucoup d'importance chez les jeunes. Je pense que ça sera toujours le cas en 2050. Moi, je ne vois pas l'hégémonie du football s'effacer de sitôt.
Marie-Ève Pagé, qu'est-ce que vous en pensez? Quel sport en 2050?
Moi, j'aurais aimé dire le basket 3-3, mais de manière plus objective, je suis d'accord avec Florent, en fait. Je pense vraiment que le foot est tellement ancré dans notre pays et de manière internationale que je vois pas comment ça peut être détrôné en, entre guillemets, en si peu de temps, parce que 30 ans, c'est bientôt.
Oui.
Après, peut-être qu'avec clairement l'émergence du e-sport,
peut-être
que quelque chose peut tourner autour de ça et peut-être que à l'avenir ça va prendre de plus en plus de place vu qu'on voit très bien l'engouement de tous les jeunes pour les jeux vidéo, donc peut-être, pourquoi pas, ça viendrait concurrencer le football, mais je pense que le circuit économique est tellement développé qu'avant que d'autres sports le rattrapent, ça me paraît compliqué.
Maître Georges Vigarello, le mot de la fin.
Écoutez, en un mot. D'abord, je trouve que la question est centrale.
Oui.
Parce qu'elle montre précisément que les pratiques peuvent bouger. Reste effectivement que le football aujourd'hui, il apparaît comme le sport. C'est le sport, celui dont on parle quasiment exclusivement. Mais personnellement, je me laisse quand même tenter par les pratiques aériennes. Et je crois que le skate, les freestyle, etc. vont vraiment grandir en importance et peut-être dominer dans les années 2050.
On se donne rendez-vous en
2050. On se donne rendez-vous sans problème.
Exactement. Avant de remercier nos invités, je vous rappelle que les Jeux paralympiques débuteront le 24 août. France Télévisions diffusera plus de 100 heures de sport à cette occasion. Marie-Ève Pagé, merci de nous avoir rejoints ce matin. Rendez-vous est pris pour 2024. On espère chanter avec vous la Marseillaise, évidemment. Florent Baudin, ai-je besoin de redire que votre série documentaire Champion est à voir absolument sur France.tv. Merci d'avoir été avec nous. Et puis merci Georges Vigarello, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Parmi toute votre bibliographie, je recommande Le corps redressé, du jeu ancien au show sportif et votre dernier livre, Histoire de la fatigue, du Moyen-Âge à nos jours, qui est publié au Seuil. Comme tous les jours, pour prolonger cette thématique, voici ma prescription. Je vous recommande une série en 6 épisodes, The English Game, à voir sur Netflix. Ce n'est pas la meilleure série de tous les temps, mais si vous voulez comprendre comment c'est structuré, le football au 19e siècle en Angleterre, sur fond de lutte des classes, ne manquez pas cette fiction. Un grand merci à toute l'équipe énergique de l'été comme jamais. Juliette Medevielle à la réalisation, Fabrice Desmaz à la technique, Margot Page, Anna Massardier, Marie Aubert à la préparation, Muriel Pérez à la programmation musicale. Rendez-vous demain, 9h sur France Inter, avec une émission qui, je l'espère, ravira vos oreilles. Nous nous demanderons comment ont évolué nos paysages sonores.